propose que nous puissions maintenant ouvrir la Bible ensemble et nous allons rester finalement dans le thème du culte jusqu'ici donc et permettre à la Bible de nous rappeler, de proclamer ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Donc et on va découvrir que l'œuvre de Jésus, selon la Bible, est une bonne nouvelle pour ceux qui se déçoivent. Bon, je suis sûr que vous n'êtes pas concernés. Mais si jamais ça vous arriverait dans l'avenir de vous décevoir, alors au moins comme ça, vous allez pouvoir faire appel dans votre mémoire à cette bonne nouvelle que le Seigneur nous donne. Donc, on va lire ensemble dans 1 Corinthiens 15. Les versets 35 jusqu'à la fin du chapitre. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme qui est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, le début d'une année est souvent synonyme de faire un bilan sur notre vie, voir si on a été satisfait avec l'année précédente, avec notre manière de vivre. Et très souvent, donc, c'est comme ça qu'une nouvelle année débouche sur les fameuses résolutions de nouvel an. Des résolutions qui, généralement parlant, sont souvent très vite suivies par l'abandon de ces mêmes résolutions. Alors, puisque donc les gens qui travaillent dans les universités doivent trouver des emplois très importants à faire, quelqu'un a fait une étude sur le temps généralement que les gens tiennent leurs résolutions de nouvel an, et on a découvert qu'en moyenne les résolutions sont abandonnées après 32 jours. Donc si vous arrivez mi-février, sachez que vous êtes déjà au-dessus du moyen dans votre tenue des résolutions. Parfois donc les gens sont déçus d'eux-mêmes lorsqu'ils voient que après qu'un mois, voire parfois moins, ils sont incapables de tenir leur résolution. Et vient parfois un sens de découragement, un sens même d'impuissance, où on se rend compte qu'on n'est pas capable de tenir cette résolution, cette décision qu'on avait prise. Si on connaît sa Bible, un tel constat est pourtant pas très surprenant, parce que la Bible nous dit que finalement l'être humain est très peu fiable. Comme dit Paul dans le verset 19 d'1 Corinthiens 15, même en tant que chrétien, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Puisque dans cette vie, il faut être honnête, nous ne sommes pas très fiables, nous ne sommes souvent pas très capables d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Et donc la Bible n'a pas beaucoup d'estime pour la nature humaine et pour nos capacités, au moins dans l'état actuel de l'être humain. Alors certes, la Bible nous montre que chaque être humain a une grande valeur parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et donc la valeur de la vie vient du fait que nous avons été créés à son image. Mais il ne faut jamais oublier les effets de la chute. Quand on regarde l'être humain, et même quand on regarde la création en général, on est obligé de se rappeler que oui, Dieu a créé des choses merveilleuses, oui, tout a une valeur puisque créé par Dieu, et en particulier l'être humain parce que créé à l'image de Dieu. Mais la chute est venue par la suite et a déformé cette création merveilleuse que Dieu avait faite, avec toutes les implications qu'on connaît. Alors, il y a la fameuse phrase que, vous savez, me rend complètement fou. C'est cette fameuse phrase qui dit « Je le vaux bien ». En fait, ça résume bien la condition humaine. L'être humain qui veut croire qu'il le vaut bien, mais qui, en réalité, ne le vaut pas du tout, ne vaut rien du tout, tellement nous sommes déformés par le péché, mais résume du coup aussi la grandeur de la grâce de Dieu. Comme dit le psalmiste, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu lui-même descende du ciel pour se sacrifier sur la croix pour nous sauver? Devant l'œuvre de Dieu, on ne peut pas dire « je le vaux bien » parce que tout est par grâce. Heureusement pour nous, Dieu ne nous dit pas « je vais vous donner ce que vous valez ». Parce que là, on sait ce qu'on recevrait. Notre ego, donc, cherche à nous tromper, puisque finalement c'était la base du péché originel, où le serpent a trompé Ève avec cette promesse de dire, ah mais vous savez, vous valez bien plus que ça. Dieu, ce qu'il dit de vous, c'est pas bien. Dieu veut vous brimer, vous limiter, mais en fait, vous avez tellement d'implications devant vous, tellement de valeurs, tellement de choses que vous pourriez faire. Genèse 3, verset 5, Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Mais Dieu, il vous limite dans ce qu'il dit. Vous valez bien plus que cela. Mais en fait, l'être humain a découvert depuis que c'était vraiment une tromperie et que c'était la source de tous nos problèmes. Et lorsque nous sommes vraiment honnêtes, lorsque on regarde vraiment notre vie, on se rend bien compte que cela n'est pas vrai. On n'est pas des dieux. On n'a pas les capacités d'un dieu. Et on se rend compte de nos limitations et de tout ce qui ne va pas en nous. Finalement, le message de l'Ancien Testament est là pour renforcer cette réalité, pour nous aider à comprendre la réalité de notre condition. Dans Galates, chapitre 3, verset 19, l'apôtre Paul dit « Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que ceux qui avaient été promis soient donnés par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la loi, par la foi. Donc, la loi était là pour nous montrer qu'on n'était pas à la hauteur de ce que Dieu attendait de nous, pour nous montrer nos fautes et pour chercher à limiter nos fautes, mais à nous montrer qu'il allait falloir autre chose qu'une loi pour nous justifier devant Dieu, pour rétablir cette relation avec Dieu. Si vous voulez, la Bible est comme un miroir dans lequel Dieu nous invite à regarder, mais un miroir avec l'image de Christ gravée dedans, pour que lorsqu'on se regarde dans ce miroir, on se voit tel qu'on est, mais on voit aussi à quel point on est inférieur à Jésus-Christ, qu'on n'est pas à la hauteur de lui. Si nous regardons donc à nous-mêmes, si nous analysons notre propre vie, si nous sommes honnêtes et sincères en prenant les critères de Dieu, et c'est d'ailleurs pour ça que depuis toujours, l'être humain cherche lui-même à se mettre à la place de Dieu et d'imposer ses propres règles, ses propres critères, parce que c'est beaucoup plus arrangeant. Si nous regardons à nous-mêmes et nous sommes sincères, nous serons toujours déçus à un moment donné, parce que nous nous rendons bien compte de ce péché qui reste accroché à nous. Mais première bonne nouvelle pour ceux donc qui sont déçus d'eux-mêmes, c'est que Jésus-Christ est venu pour racheter les êtres humains. Les êtres humains qui sont nés depuis qu'Adam et Ève ont introduit le péché avec une nature déchue, Jésus est venu pour racheter cette nature humaine. C'est encore un de ces fameux moments où la Bible peut dire « Voici la réalité, voici là où était l'être humain, mais Dieu est intervenu. » Mais Dieu a agi, Dieu a trouvé la solution. Verset 25, donc, du même chapitre 3 dans Galates, « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes donc maintenant, par Jésus-Christ, fils de Dieu, enfants de Dieu, héritiers de Dieu, puisque Jésus-Christ est venu racheter la nature humaine. Pour cela que les apôtres ont trouvé ce mot évangile, bonne nouvelle, pour le message qu'ils avaient à communiquer. Ils ont dit, nous qui jusque-là n'étions que conscients de notre péché, d'ailleurs la Bible dit que même dans le judaïsme, la fête répétitive des offrandes et des sacrifices était là pour rappeler régulièrement qu'ils étaient pécheurs. Ils disent, maintenant nous avons découvert cette bonne nouvelle. Dieu a proclamé cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu pour racheter notre vie, pour faire de nous des enfants et des héritiers de Dieu. Il y a cette bonne nouvelle que Dieu nous sauve dans sa grâce. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Lorsqu'on est suffisamment sincère pour reconnaître ce que nous sommes par notre nature propre, et puis de découvrir que malgré cela, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que Dieu nous sauve. Comme dit Paul dans Éphésiens chapitre 1, versets 7 et 8, « En Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » En Jésus-Christ, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Oui, nous sommes pécheurs parce que nous sommes nés dans le péché. Notre nature propre, c'est le péché. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'en lui, nous avons le pardon des péchés. La bonne nouvelle, c'est que lorsque Dieu nous sauve, nous sommes transformé à son image pour devenir ses enfants, et en plus, il vient nous habiter par son esprit. L'esprit de Dieu lui-même vient en nous. Jean 14, versets 16 et 17, Jésus qui dit à ses disciples, « Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Donc, de notre nature propre, nous sommes déchus, nous sommes loin de l'idéal, nous sommes décevants, mais Dieu, malgré cela, nous sauve en Jésus-Christ. Et vient habiter ce corps méprisable avec son esprit. Ce qui veut dire que finalement dans ce combat contre notre propre nature, contre le péché, nous ne sommes plus seuls pour mener ce combat. Nous pouvons compter sur l'aide du Saint-Esprit. Oui, nous sommes décevants par notre nature propre, mais lui, il est là en nous, avec nous. Dans la suite de Romains chapitre 8, versets 2 à 4, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. L'Esprit de Dieu est donc venu en nous, habiter dans notre corps, déjà à partir du moment où nous mettons notre foi en Jésus-Christ, pour œuvrer en nous, pour nous transformer, pour nous aider à donc accomplir la justice de Dieu dans notre propre vie, ce qui avant nous était complètement impossible. Et dans Galates chapitre 5, verset 16, l'apôtre Paul en parle lorsqu'il dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Le Nouveau Testament donc nous encourage à suivre cet esprit qui est venu habiter en nous afin qu'il puisse développer son fruit en nous, afin que nous puissions accomplir la justice de Dieu. Et donc nous encourage du coup, en collaborant avec lui, à mettre à mort notre nature propre, notre nature humaine qui nous tire dans la direction opposée, comme dit Paul, vers les œuvres de la chair. Romains chapitre 6, versets 11 à 13, dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Mais ce passage nous montre que donc il reste ces deux natures en nous pour l'instant. L'Esprit de Dieu qui vient habiter notre corps. Mais il y a également cette chair qui veut encore nous conduire dans la mauvaise direction. Et là aussi, si nous sommes sincères et honnêtes, souvent là aussi, nous nous décevons. Parce que on voudrait accomplir cette justice de Dieu et puis, à un moment donné, on écoute la mauvaise voix en nous, on écoute nous-mêmes, on écoute notre propre nature et on va dans la mauvaise direction. C'est ce que l'apôtre Paul décrit en Romains chapitre 7, versets 21 jusqu'à 25. « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » C'était peut-être uniquement l'apôtre Paul et vous n'êtes pas concerné par cela. « car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. » Ce jour-là, l'apôtre Paul avait dû être déçu de lui-même, je pense. « Qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Jacques aussi, en écrivant à des chrétiens, dit dans Jacques chapitre 4, verset 1er, « Mais d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» Donc, en tant que chrétiens, oui, nous sommes rachetés, oui, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, nous conduit dans la direction de Dieu, nous encourage à accomplir la justice de Dieu, mais puisque ce corps est encore là, cette nature est encore là, il nous arrive aussi de nous décevoir, même en tant que chrétiens. Parfois encore plus, puisque nous sommes chrétiens. Parce qu'on sent cette tendance en nous qui fait la guerre contre ce que Dieu désire pour nous. D'où vient en jeu cette deuxième bonne nouvelle contenue dans l'Évangile. Si parfois nous sommes déçus de nous-mêmes. Romains chapitre 8, verset 22. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ce soupir, c'est ce qu'il a décrit dans le chapitre précédent, mais quand il dit « Mais misérable que je suis, qui me libérera de ce corps de mort ? Nous soupirons, dit-il, en attendant l'adoption, en attendant la rédemption de notre corps. » Donc, le double bonne nouvelle dans l'Évangile, c'est premièrement que Dieu rachète notre nature humaine, rachète notre vie par la mort de Jésus sur la croix, et que dès que nous mettons notre confiance en lui pour être sauvés, pour être déclarés enfants de Dieu, nous changeons donc de statut, notre vie est rachetée, notre vie lui appartient. Mais la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il a prévu encore un jour où notre corps, ce corps de mort dont Paul espère être libéré, sera aussi racheté, la rédemption de notre corps. La Bible nous dit, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de patienter. C'est encore un exemple de ce qu'on a vu il y a quelques semaines, que les théologiens appellent ce message dans la Bible du « déjà, mais pas encore ». Je suis déjà racheté par le Christ. Mais mon corps n'est pas encore racheté. Ça, il va falloir attendre ce jour de la rédemption de notre corps. Donc, dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, il est question d'avoir la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Mais dans Romains 8, verset 23, il dit « Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Ma vie est rachetée, ma vie est cachée en Christ, mais j'attends encore le jour de la rédemption de mon corps. Pour l'instant, dit Paul dans le verset 23, « Nous avons les prémices de l'Esprit. » Éphésiens 1, parle du fait qu'en lui nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Nous avons donc la première partie. Mais la Bible nous dit bien, dans 1 Corinthiens 2, verset 9, que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, il n'est point monté au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Nous avons la première partie, les prémices, le gage. Mais Dieu dit, le meilleur est encore à venir. Vous êtes rachetés, je vous ai rachetés. Bonne nouvelle, donc, comme dit Paul à la fin de Romains 8, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, si nous nous accrochons à lui. Mais la Bible nous dit aussi, nous aurons donc à ce moment-là la totalité de notre rédemption. Nous aurons la rédemption de notre corps. Nous avons donc les prémices pour l'instant dans ce que Paul va décrire dans 1 Corinthiens 15 comme un corps méprisable, corruptible, infirme, naturel. Soyons honnêtes, décevant, qui régulièrement nous déçoit par ses incapacités, d'où nos frustrations, d'où nos déceptions. Mais la bonne nouvelle, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 15, versets 22 et 23, c'est que comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Je suis donc racheté. Ma vie est rachetée et cachée en Christ à partir du moment où je mets ma foi en lui. Mais il faut que j'attende le jour où Jésus revient pour vivre la totalité. Pour que mon corps, avec cette nature entachée par le péché, soit racheté. Pour cela que toute la création attend ce jour. Paul va dire dans Romains chapitre 8 d'ailleurs que nous sommes sauvés dans l'espérance. Sauvés dans l'espérance de ressusciter non plus corruptible, méprisable, infirme et naturel, mais incorruptible, glorieux, plein de force spirituelle. Le jour où on est déçu de nous-mêmes en disant « Je suis moins spirituel que ce que je le croyais », la Bible nous dit, mais rassurez-vous, ne soyez pas découragés. Il y a ce jour où Jésus va revenir et là vous serez aussi spirituel que ce que vous espérez l'être. Parce que là, vous allez ressusciter, être spirituel. La bonne nouvelle que Paul décrit dans 1 Corinthiens 15, c'est ce qui est décrit en Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 2 jusqu'à 4. Parce que ce qui est toujours important de se rappeler lorsqu'on lit ces versets, c'est que nous y sommes. Aujourd'hui, je me déçois. Ce jour-là, quel est le descriptif de moi que donne le Seigneur, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Car les premières choses ont disparu. Ce corps corruptible, méprisable, infirme, naturel, enclin au péché, aura disparu pour être remplacé par ce corps que Dieu nous a promis le jour où il va racheter notre corps, nous transformer d'être naturel en être spirituel. Donc, si vous êtes déjà venu à Jésus, si vous n'êtes pas venu à Jésus jusque-là, ben forcément, C'est la première étape pour connaître cette rédemption. Mais si vous êtes déjà venu à Jésus, mais ça vous arrive de vous décevoir encore, ne permettez pas à l'ennemi de vous faire baisser les bras. On en a chanté tout à l'heure. L'ennemi vient avec ses mensonges pour nous accuser. Mais la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, nous avons la rédemption. Nous avons le pardon des péchés, non pas parce qu'on le vaut bien, mais selon la richesse de sa grâce. Et puis, nous avons donc cette assurance que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, en attendant le jour où Dieu va racheter notre corps, va démontrer la rédemption de notre corps par notre résurrection. Donc, dans Romains 7, verset 24, l'apôtre Paul pose la question « Mais misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Mais finalement, il fournit lui-même la réponse dans 1 Corinthiens 15, versets 54 jusqu'à 57. « Qui me délivrera de ce corps de mort ? Mais lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Aucune raison donc de permettre à l'ennemi de baisser les bras, de nous décourager au point d'abandonner et de nous éloigner de Dieu, de ne pas oser revenir au Seigneur dans sa grâce. Parce que simplement, c'est le constat de ce que nous dit la Bible. Nous sommes rachetés, mais nous attendons le jour de la rédemption de notre corps de mort pour que ce corps de mort devienne corps incorruptible, semblable au corps de Jésus lorsque nous entrons dans le plein héritage que Dieu a préparé pour nous. Donc, si cette année, vous arrivez même pas jusqu'à 32 jours pour faire tout ce que Dieu vous a demandé de faire, ne permettez pas à l'ennemi de vous écraser. Mais rappelez-vous, j'ai en Jésus-Christ la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la grâce de Dieu, et j'aurai la rédemption de mon corps le jour où Jésus va revenir.